Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Extra goal!
Ouais, tu poses une question et puis je fais 8 minutes.
C'est fait.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma version Extra Ball. Vous le savez, on fait ça de temps en temps, une mini-session 100% centrée sur un seul film, ou en l'occurrence un seul réalisateur. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Wes Craven, l'un des grands noms du cinéma d'horreur grand public, je le précise, qui nous a quitté tout récemment. C'est l'occasion de retracer brièvement son parcours, de faire surtout un peu le tri dans sa filmographie. On va faire ça avec mon camarade Yannick Dahan. Salut Yannick.
Salut.
Et allez, c'est nos ciné Extra Ball, deuxième du nom, et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
De Wes Craven, finalement, le grand public ne connaît qu'un petit bout de sa carrière, pourtant longue, variée et plutôt riche après un passage par la case porno sous tout un tas d'alias. Le bonhomme s'est spécialisé dans le cinéma qui fait peur, avec notamment un premier classique dans les années 80, Freddy, les griffes de la nuit et toutes ses suites auxquelles il a participé de près ou de loin. Et puis pour la génération des années 90-2000, Wes Craven, c'est surtout ça.
Allô?
Allô?
Qui est à l'appareil?
Dites-moi votre nom, je vous donnerai le mien.
Ah. Non, pas question.
C'est quoi ce bruit?
Du pop-corn qui grille.
Moi, j'en mange qu'au cinéma.
Bah justement, j'allais regarder une cassette.
Ah oui, laquelle?
Oh, je sais pas encore, sans doute un film d'horreur.
Vous aimez les films qui font peur? Je ne sais toujours pas votre nom.
Ça vous avancera à quoi de le connaître?
J'aime bien savoir qui je regarde.
Voilà, Scream, évidemment, sorti en 1997 en France, mais Wes Craven, c'est quand même un peu plus que ça, n'est-ce pas Yannick?
Ah oui, c'est quand même quelqu'un qui a eu plusieurs phases dans sa filmographie, quoi. Bon,
qu'est-ce que toi tu retiens dans sa filmographie?
Bah, moi je retiens pas. Les Freddy, même si c'est quelque part victime du succès, que ce soit pour Freddy, que ce soit pour Scream, les Freddy étaient quand même malgré tout dans la tendance des films d'horreur tels qu'on pouvait les faire, très orientés ados dans les années 80. Ça partait d'un super concept. Alors évidemment, plus t'avances dans la saga, plus ça se délaye, plus ça devient du grand n'importe quoi. Mais c'était malgré tout intéressant. Non, moi, c'est pas ce que je retiens le plus, même si certains considèrent que ses premiers films dans les années 70, fin des années 70, étaient assez fondateurs. Moi, ce qui m'a fait kiffer chez Wes Craven, mais c'était encore une fois plus sur les concepts en réalité que sur le talent présupposé du type en termes de réalisation, mais malgré tout, il a fait exister ces films-là, que je considère toujours comme des films inégaux, un peu branquignoles, parfois un peu chipouilles, mais toujours fun. Donc moi c'est en plus ces trois films qui suivent, donc il a eu une espèce de phase là où il s'est dit j'en ai ras-le-bol de Freddy, et il est parti, il a fait The Serpent and the Rainbow qui était l'emprise des ténèbres sur le voodoo en Haïti, qu'il a suivi si je ne m'abuse par Shocker puis Le Sous-sol de la peur ou inversement, je ne me rappelle plus, et qui sont à chaque fois des idées pas possibles.
Enfin, dire un petit mot notamment sur Shocker qui est quand même assez
Shocker
assez
c'est barjo. Complètement taré avec un mec condamné à mort qui se fait griller sur la chaise électrique et qui tout d'un coup s'infiltre dans les prises électriques puis après il va dans la télévision, mais ça donne un final mis en abîme qui était quand même assez drôle avec le héros qui grosso modo poursuit le bad guy à travers plein de shows télévisés dans la télé, donc c'était un truc un peu barge,
un peu cartoonesque aussi,
un peu cartoonesque aussi bords, ouais. et puis ce qui est marrant c'est que moi je te cite ces trois films qui sont probablement et que je ne considère pas moi comme des films d'horreur, c'est-à-dire que quand j'entends présenter Wes Craven comme un maître du cinéma d'horreur, je suis quand même assez terrifié parce que pour moi, il a peut-être fait 2-3 films d'horreur, fondamentalement. Après, il utilise des codes, mais ça n'a jamais été un cinéaste de l'horreur. Il a fait plein de choses très différentes.
Je pense qu'on a cette image-là de lui, peut-être à cause de Scream, qui déconstruisait justement le schéma du film d'horreur. On a tous entendu cette séquence où un des personnages explique « dans un film d'horreur, il y a ça, il y a ça ».
Mais moi, Scream, c'était la fin, quoi. Ouais. C'est-à-dire, enfin, Scream, c'était...
Mais ça a été le point d'entrée pour pas mal de gens.
Oui, ça a été le point d'entrée pour beaucoup de gens. C'est une transition évidente. C'est bon, alors les cinéphiles le savent très très bien, mais Scream a été écrit par un certain Kevin Williamson qui a commis moult méfaits à la suite de ce film et qui a créé toute une mode, parce que c'est rien d'autre que ça, une mode profondément cynique, mais qui était finalement assez symptomatique de l'époque dans laquelle on était et qui perdure encore un petit peu aujourd'hui. Le cynisme perdure énormément au cinéma, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus à faire croire aux univers qu'on dépeint, on cherche à se marrer avec ou à s'en moquer. Donc Scream était un peu bâtard parce que cette première scène qui avait terrifié Charlene quand quand elle était plus jeune.
Charlie Brooke, juste à côté.
Voilà, la première scène de Scream était encore dans une logique de vieux code de film, oui, de film d'horreur. Et puis bon, petit à petit, le film était gangréné par les remarques de celui qui tout d'un coup tenait en perspective. Alors, tu sais, chez nos tenants de la critique en France, à partir du moment où on met un tant soit peu en perspective, où on regarde avec une distance intellectuelle, voire cynique, tout de suite c'est profond, ouais, et intéressant.
Surtout s'il s'agit du genre.
Voilà, donc moi c'est parce que comme ils ne comprennent pas fondamentalement les codes du genre au premier degré, donc à partir du moment où on s'en moque un petit peu, ça devient beaucoup plus intéressant. Pour moi, ça n'a pas été le cas, et surtout, j'ai rien à reprocher à Scream fondamentalement, c'est plus tout ce que ça a entraîné derrière, ouais, et qui a ruiné, entre guillemets, pour moi, le cinéma d'horreur. Et toute sa diversité et sa richesse qu'il y avait dans les années 80, parce que les années 80, c'était pas que c'était Evil Dead, c'était des films beaucoup plus trash, il y avait de tout, et puis c'était un genre, je peux pas dire noble, mais c'était un genre qui se défendait, qui ne correspondait pas qu'à des désirs marketing. Il y avait des jeunes réels qui débarquaient, qui avaient des envies folles, et on leur laissait le faire. Aujourd'hui, ça existe encore, il y a beaucoup de films d'horreur, mais ils sont vachement formatés, ils suivent des tendances beaucoup plus d'études de marché qu'autre chose. Et en tout cas, pendant les années 90, Scream a eu l'effet d'avoir derrière les Scream 2, des Faculty, des trucs comme ça, qui tout d'un coup, moi on me dit film d'horreur, mais en fait tu vas pas croire une seconde à ce que tu es en train de voir. Pour moi, c'est pas un film d'horreur, ça ne travaille pas sur mes peurs, ça ne travaille pas sur mes traumas, ça ne travaille pas sur mes angoisses, donc c'est plus un film d'horreur, ça n'a aucun intérêt pour moi. Donc c'est pour ça que Wes Craven, maître de l'horreur, non, fondamentalement. Par contre, réel intéressant, qui a été victime de son succès, certes, sur des films qui sont peut-être pas ses meilleurs, mais qui à côté prouvait qu'il était capable de faire des petites séries B, branquignoles, un peu tarées par moment. Moi, le sous-sol de la peur, c'est ça, moi, qui me fait rire. C'est-à-dire que, évidemment, on est déjà dans un truc où on n'y croit pas fondamentalement, mais cette espèce de couple de tarés qui séquestrent des enfants dans leur sous-sol en s'habillant en cuir et en hurlant « va brûler en enfer », moi, ça me fait délirer. Donc voilà, si Craven avait continué dans cette veine, quitte à moins peut-être s'enfermer dans un côté trashou, fastoche, il aurait pu devenir un réel qui aurait fait des choses très très intéressantes. Après, il a été comme Romero avant lui, ou en même temps que lui, a été enfermé dans ce pourquoi il a cartonné, quoi. Donc voilà.
Et donc on en retient au moins trois, on l'a dit,
oui,
des films de Wes
Craven. C'est ceux-là. Après, il y en a d'autres
tu
qui sont intéressants aussi.
Le sous-sol de la
moi, ce
peur.
Que je préfère, c'est l'emprise des ténèbres, Shocker et le sous-sol de la peur.
Le sous-sol de la peur. Et tous les films de Wes Craven, les plus fameux en tout cas, on les retrouve assez facilement en DVD et en VOD. Et donc c'est à redécouvrir, en tout cas pour une partie. Notre temps est écoulé. Merci beaucoup Yannick, merci à Jules, à la technique, au temps et au public pour l'accueil. Nos ciné version normale, rappelez-vous, c'est tous les lundis. Entre temps, on se retrouve un peu partout sur le net. iTunes, Deezer, SoundCloud, Mixcloud, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle Nos Ciné à chaque fois. Laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir. En attendant, on vous dit à bientôt. Rosebud.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.